Christophe Dickès qui publie Le Vatican, vérité et légende aux éditions Perrin. Alors c'est vrai que derrière le Vatican, il y a quand même beaucoup de mystères, de fantasmes aussi. Mystère, vérité. Alors est-ce qu'on peut réellement lever le voile et dire la vérité sur le Vatican et le Saint-Siège ?
Mais bien sûr, parce que le Vatican et le Saint-Siège sont des mondes beaucoup plus accessibles qu'on ne le croit. Alors c'est vrai que pour vendre des livres, il faut écrire le mot secret sur la couverture. Sauf que des secrets, eh bien, le Vatican, oui, il y a le secret du conclave, c'est-à-dire de l'élection du pape, mais le secret du conclave est une chose nouvelle au XXe siècle, qui est donc très récente. Il y a toujours le secret de la confession, qui est une sorte de secret professionnel, mais il n'y a pas de secret des archives. En revanche, il y a un secret d'État. Et le secret d'État, il existe dans tous les États du monde. Il varie selon les pays. Pour accéder par exemple aux archives des papes, il faut attendre une soixantaine d'années, 60, 65 ans. Donc par exemple, on attend avec impatience l'ouverture des archives de Pie XII qui est mort en 1958. Donc vous faites le compte, vous rajoutez 65 années et on aura l'ouverture des archives très prochainement qui permettront non pas de révolutionner notre vision du pape Pie XII et de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui apporteront des éléments, je pense, supplémentaires.
Alors justement, vous faisiez l'allusion à la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'il y a des questions, des choses, des fantasmes, reprenons ce mot, peut-être qui perdurent. Et puis il y a aussi, vous parliez on parle dans ce livre de Jean-Paul Ier, a-t-il été assassiné, il y a eu ces bruits qui ont couru, il y a beaucoup de choses comme ça, de mystères qui sont des mystères entretenus peut-être par le cinéma, par l'actualité et par certaines presses.
Alors c'est tout à fait ça, vous avez tout dit quand vous parlez de cinéma ou bien de littérature, hein, c'est le Da Vinci Code qui invente des complots là où il n'y en a bien évidemment pas, mais ce sont des œuvres de fiction. Reprenons l'assassinat de Jean-Paul Ier. En fait, il y a eu un livre de David Gallop, qui est un journaliste d'investigation, qui a conclu à l'assassinat du Jean-Paul Ier à cause de la mafia, mais aussi de l'entourage du pape, dont même le secrétaire d'État qui était un Français. Et en fait, on s'aperçoit, notamment avec l'ouverture des archives médicales concernant ce pape qui ont eu lieu très récemment, que le pape était sujet tout simplement à des faiblesses cardiaques. Et cette faiblesse cardiaque avait été notifiée par le médecin du pape quelques heures avant sa mort, et l'ouverture des archives médicales ont permis de revoir notre jugement, ou en tous les cas de le préciser. La thèse officielle disait bien évidemment qu'il n'avait pas été assassiné, mais là nous en avons eu une réelle confirmation.
Alors il y a évidemment des éléments, vous avez cité le mot politique tout à l'heure, il y a des événements politiques importants, on peut penser Jean-Paul II et puis la chute du communisme.
Il y a des événements, le Vatican, qu'on le veuille ou non, même si nous sommes dans un univers religieux, fait de la politique. Il fait de la politique et il fait bien de la politique. C'est-à-dire qu'il est là avec des intéressés. Le Staline disait, le pape combien de divisions ? En fait, le pape n'a pas d'armée, le pape n'a pas d'intérêt économique, le pape a simplement la force de la parole et il arbitre bien des conflits. On l'a vu notamment avec le pape François dans la réconciliation entre Cuba et les États-Unis sous Barack Obama. Eh bien, le Vatican a joué un rôle de médiateur. Mais on l'a vu également au moment de la crise des missiles de Cuba en 1962, où Jean XXIII a joué le rôle de médiateur entre Khrouchtchev et Reagan. Alors, il y a énormément d'exemples, notamment, il y a failli y avoir un conflit à la fin des années 70 entre le Chili et l'Argentine, une guerre entre les deux pays, et en fait, le Vatican a été appelé pour jouer là aussi le rôle de médiateur. Mais si le Vatican fait aussi de la politique, si le Saint-Siège fait aussi de la politique, c'est parce que son premier rôle sur la scène internationale, c'est de protéger les chrétiens là où ils se trouvent, par exemple là où ils sont persécutés, en Chine ou bien au Moyen-Orient.
Alors j'allais dire, à qui profite le crime ? Qui a intérêt à laisser ce voile de mystère planer sur le Vatican ? Est-ce que c'est le Vatican lui-même ou est-ce que finalement il y a d'autres...
Mais quand vous faites de la politique sur la scène internationale, il faut mieux que vous fassiez de la politique dans les officines internationales à l'abri des regards de la presse. Pourquoi ? Parce que la politique internationale a besoin de discussions solution a besoin de temps, a besoin d'une certaine opacité pour pouvoir arriver à des résultats. Si la réconciliation, les négociations entre Cuba et les États-Unis avaient eu un écho médiatique avant leur révélation, elles n'auraient pas forcément abouti. Et donc, elles ont abouti grâce à ce secret qui n'est autre qu'un secret d'État. En France, aujourd'hui, la diplomatie internationale de la France garde un secret, exactement comme la diplomatie pontificale a son propre secret. Et ce secret est important dans le monde politique.
Rappelons-le, effectivement, le Vatican est un État aussi.
Oui, exactement. C'est le plus petit État du monde, mais c'est le gouvernement de l'Église catholique qui a un rayonnement universel. Et c'est un statut un peu particulier, un statut juridique particulier, parce que c'est la seule institution dans le monde, la seule religion dans le monde qui a une sorte de gouvernement et de gouvernement international et qui est en lien avec tous les États du monde. C'est la plus grande représentation diplomatique au monde, le Vatican. Le Vatican parle avec tous les pays, tous les chefs d'État.
Merci Christophe Dickès. Pour en savoir plus sur le Vatican, Vérités et légendes, c'est publié aux éditions Perrin.